Dans le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure, Philippe Solers écrivain, Roland Barthes explique que vous pratiquez une écriture de vie. Et dans Vision à New York, ce livre d'entretien, qui reparaît dans la collection Folio, enfin qui a été republié en 98, qui date de 81, entretien avec David Eman, il y a un appendice, une sorte de flashback, qui est un premier entretien, plus ancien, de 1975, où il est question de l'écriture et de la vie. Vous dites qu'on ne peut pas séparer la vie de ce qu'on écrit. Je pense, je vous cite, que nous devons rappeler avec une rigueur extrême que tout coûte quelque chose.
Mmh. Oui, parce que c'est polémique par rapport à, vous savez, il faut choisir entre l'œuvre et la vie, entre l'apparence et le fond, entre ceci et cela. Et ça, c'est le catéchisme de l'art comme sacrificiel, comme renonciation, comme... voilà. C'est très polémique chez moi, ça, parce que j'ai la conviction, expérimentale en plus, prouvée par les faits, que le fait d'écrire transforme la vie. Et qu'il y a comme une expansion de la fiction qu'on écrit dans la vie réelle. C'est ce que j'essaye de dire. La plupart des livres, les romans récents, commencent par une situation fermée, invivable, où après tout on pourrait en finir assez vite. Pourquoi rester dans ce mensonge ou dans cette prison? Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le livre avance, eh bien des situations se créent, des rencontres ont lieu, et on voit qu'après tout... voilà, on peut vivre encore mieux qu'on le croyait. Et que donc, si on s'était supprimé, ça aurait été une erreur parmi d'autres.
On n'est pas très loin de l'éloge de la richesse dont on parlait il y a un instant. Hein, quand vous écrivez, par exemple, on ne peut rien écrire de valeur si ça ne trouve pas un écho extrêmement précis, qu'il soit douloureux, fastidieux, terrifiant ou très agréable, à quelque chose qui se produit dans le réel.
Oui, c'est ça. Ouais. Il faut cette espèce de négativité pour atteindre la vraie richesse, qui peut se contenter de très très peu de choses, puisqu'elle se passe immédiatement dans la plus grande proximité. Je crois que le mensonge social est organisé pour éloigner les êtres humains d'eux-mêmes, de ce qu'il y a de plus proche pour eux, de la proximité même, leur faire oublier qu'ils sont là tout de suite, en présence du réel qu'ils n'osent pas voir. Nous passons à côté sans cesse de la richesse absolue. Ça, c'est un peu Héraclite, vous savez, qui dit que les ânes laissent l'or et prennent la paille.
David Eman vous demande si vous savez où vous allez. C'est une très bonne question. Pour terminer un entretien, là, on ne fait que commencer, rassurez-vous, on ne va pas s'arrêter là. Et vous répondez que vous ne pouvez pas savoir, ça, vous répondez ça en 1975. Hein. Après tout, dites-vous, si je le savais, je n'irais pas. Je vais parce que je ne sais pas où je vais.
Oui.
Mais en 2000,
c'est chaque
en
fois
2000 vous répondriez
pareil. C'est pareil, oui, je ne sais absolument pas. Ça dépend du moment où j'aurai trouvé la première phrase du livre suivant. Je tourne autour et elle n'est pas encore là, et donc je ne sais pas. Mais tout dépendra de cette première phrase. Chez moi, c'est absolument évident. Alors, une fois que la première phrase est là, ben après tout, le temps peut s'écouler, mais il s'écoule autrement que si je ne l'ai pas écrite, cette première phrase-là. Alors, dans Passion fixe, si je me souviens bien, ce mois-là, novembre ou décembre, j'avais vraiment décidé d'en finir. Voilà. Au studio, j'ai rarement été aussi seul, point. J'aime ça, quoi. Et de plus en plus, quoi. Voilà.
Bon. Mais ça, c'est dans les livres, mais dans la vie, vous savez.
Mais
c'est
ça, immédiatement, c'est la vie elle-même qui est là. Il n'y a pas de vie sans phrase, pour l'être dit humain. Et le curieux, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, parce qu'il ne s'entend pas parler, il dit à peu près n'importe quoi, il rêve, il se souvient à peine de ce qu'il a rêvé. Vous savez qu'il y a des divans pour apprendre un peu à s'y reconnaître dans ce brouillamini que sont les pulsions diverses.
Vous y allongez, vous, sur ces divans?
Non, je me couche par écrit. je me couche par écrit. Et c'est une autre façon d'être couché, croyez-moi. Le sommeil intervient et quelque chose de plus profond que quelque chose qui s'adresserait à quelqu'un, à une écoute qui vous renverrait votre discours. Que vous mettez, voilà. C'est autre chose. Mais enfin, ce n'est pas sans la possibilité de ce qui se passe dans la psychanalyse que je prends mes marques. Hein, voilà. Ça permet de relire énormément de choses sous un jour, par exemple, nouveau.
Et si vous ne savez pas où vous allez, c'est pas vous vraiment qui avez décidé de vos livres? Ni de votre vie,
oui,
de cette vie-là.
C'est une expérience, franchement. Hein, voilà, une expérience constante, parce que, encore une fois, pendant qu'on est en train d'écrire, des choses se passent. On rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés sans ça.
Tous vos livres et vos prises de position creusent une sorte de malentendu avec qui s'accroît d'ailleurs, hein, avec les autres au fur et à mesure que vous publiez, parce que justement, comme vous le dites vous-même, vous avez donné de grands espoirs à la culture française, et ces espoirs semblent que, bon, en ont déçu quelques-uns. Alors, pourquoi pas un retrait réel dans la forêt ou dans la montagne?
Eh bien, parce que ce serait une erreur stratégique.
Ah, c'est la guerre.
C'est-à-dire que ça serait faire entrer l'adversaire dans une surveillance encore redoublée. Il n'y a pas d'exil possible aujourd'hui, il n'y a pas de retrait possible. C'est très vanté, les silencieux, les retraités, les hommes de l'ombre qui ne seraient jamais parus à la télévision, à la radio, n'auraient rien fait. Et c'est très très vanté par les marchés financiers aussi, ça. Parce que ça vous donne de la profondeur, ça vous donne une stature, ça vous donne en effet une valeur d'exemple. Oui, je connais le discours. Eh bien, à mon avis, on est d'autant plus repérable qu'on se croit dans le retrait. D'abord, on s'enferme très vite dans des considérations inutiles. Prenez par exemple, si vous passez 3 mois à la campagne, quelque part isolé, les choses de l'extérieur prennent beaucoup trop d'importance. Beaucoup trop. Un coup de téléphone devient un événement, le courrier aussi, la moindre irruption dans votre vie de quelqu'un qui passerait par là prend des proportions apocalyptiques. Donc il faut vivre comme un poisson dans le poison, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire il faut se cacher en plein jour, il faut être... Je suis profondément dans le retrait, ça a l'air d'un paradoxe, mais je le maintiens. Je suis quelqu'un qui est très 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 en retrait.
Mais d'ailleurs, dans Vision à New York, vous dites que vous avez toujours aimé être seul, que vous adorez ça et que vous feriez un moine très acceptable.
Oui, voilà, un moine très acceptable à condition, premièrement, de ne pas être avec d'autres moines. C'est pour ça que non, vous prenez la peinture chinoise que j'aime tant, ou la poésie chinoise. En général, le type, il est à ce moment-là, c'était encore possible, c'était pas possible. Autrement, on était exécuté. Enfin, on risquait sa vie à vivre dans l'empire, enfin près de la cour de l'empereur. Et combien d'exécutions de poètes ou de philosophes, taoïstes ou autres. Bon, mais en général, le type est tout seul, il est peint tout seul en pleine montagne. Mais enfin, il est des moines comme ça. Dans la tradition occidentale, ça n'existe pas. Type tout seul, quelque part. Ouais.
Mais vous ne souffrez pas de l'incompréhension où restent quand même vos livres, malgré ces efforts stratégiques que vous faites
Il y a quelque chose qui me sert, croyez-moi, dans la façon dont je me débrouille et dont je peux éventuellement naviguer dans la désinformation, l'illusion, les images successives et changeantes que je provoque. Il y a là quelque chose qui est ma technique à moi, je la conseille à personne, ce n'est pas une règle. Mais moi, je fais comme ça. Il y a plusieurs écoles. On peut en effet, pourquoi pas, se retirer complètement. Et faire profond en apparence. Mais moi, j'aime bien le malentendu aussi. J'aime bien qu'on me prenne pour un autre. J'aime bien qu'on se méprenne sur moi. C'est comique. Puis en plus, je suis au travail. J'observe. J'ai une attitude assez trompeuse. Un corps utilisable, assez trompeur. Et puis, je peux observer observer les coulisses de la formation, tout ça.
Pour revenir au monastère, au ciel, Philippe Solers, dans Vision à New York, Vision d'ailleurs, on peut remarquer le titre, vous parlez d'un point magique qui m'intéresse. La vie n'est pas ce qu'on croit, écrivez-vous, et la mort non plus. Et si le théâtre est donc truqué, faussé à la base, il faudra faire attention, très attention, à préserver contre tout et tous ce point d'infini, ce point magique.
Oui, oui.
La magie est entrée en moi, elle m'a fait savoir son pouvoir.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une expérience, encore une fois, ça. C'est dans la préface, je crois, oui. Où je dis comment, un jour, je me suis trouvé devant... une expérience qui revient assez souvent, d'ailleurs, dans mes livres. Cette espèce de décalage brusque, les lettres qui se mettent à tourner ou à vivre de leur propre vie. C'est l'expérience la plus proche de ce que je vis là, qui m'est arrivée plusieurs fois, qui se reproduit, d'ailleurs. Bizarrement, comme une hallucination, ça n'est pas une encore, mais ça pourrait l'être. C'est ce que raconte Giacometti souvent. Il était au cinéma et brusquement, il ne voit plus rien, que des taches. Il se retourne à droite, à gauche, il voit que les gens continuent à regarder un film. Lui, il ne voit plus rien. Il sort très, très, très ému de ce genre d'expérience. Voilà, ça m'arrive assez souvent. J'observe que tout le monde continue à regarder comme s'il se passait quelque chose, alors que moi, je ne vois plus rien du tout. C'est comme s'il ne se passait plus rien. Ce qui m'étonne, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde, mais enfin, après tout.